Quatrième partie. Merci pour la passion. Chapitre 12. Gina, 14 juillet 2018. Je me suis payé une nuit au Negrescu. Moi qui en ai été l'une des petites mains, je pensais éprouver une certaine satisfaction à y dormir en tant que cliente. Mais cela m'a rendue triste, mal à l'aise. Je me suis sentie bien plus proche de ces femmes de chambre qui baissent les yeux dans les couloirs que des touristes qui les arpentent, juchées sur des talons valant la moitié d'un SMIC. J'aurais dû rester au Negrescu pour l'ensemble de mon séjour niçois, mais je ne peux pas. Adrien m'a aidée encore une fois. Quelle perle celui-là. Et j'ai atterri dans une chambre d'hôte proche de la colline du château. Sans ostentation, discrète. Voilà le genre de lieu où je me sens bien. J'ai vécu à Nice 23 ans. Je connais la ville comme ma poche. Aussi, n'ai-je aucun mal à retrouver le logement dans lequel j'ai grandi seul avec mon père jusqu'à sa mort en 1960. L'immeuble a été ravalé, mais sa structure a été conservée. Alors que je me dirige vers l'atelier de Camille Colbert, mon prochain rendez-vous, je me souviens des événements qui m'ont amené à changer de métier et enfin trouver ma voie. Lorsque mon père est mort, j'ai ressenti un vide sidéral, en plus d'une tristesse indescriptible. Depuis toujours, je m'occupais de lui, surtout depuis cet accident, 10 ans auparavant, qu'il avait fait passer de boiteux à partiellement handicapé et qui avait renforcé son mutisme. Mon père suffisait à tout justifier. Mon absence de vie amoureuse, mon travail acharné, au Negrescu et ailleurs, car outre les missions ponctuelles que me confiait le concierge, j'effectuais toutes sortes de travaux de bricolage ou de ménage. Depuis toujours, j'étais seule avec mon père. Je me retrouvais soudain seule tout court. Après quelques semaines de grand désarroi, j'ai progressivement dû réinventer ma vie. Je crois que le décès de mon père a agi comme un électrochoc, la fin d'une époque, le début d'une autre. Les changements ont commencé par une révolution intérieure, un torrent d'interrogations dans le domaine du travail. Jusque-là, je ne m'étais posé aucune question. J'avais accepté tous les boulots. J'étais heureuse d'avoir la stabilité du Negrescu. Je ne me demandais pas si j'aimais ce que je faisais. La réponse était non, mais je ne pensais pas que l'on puisse vraiment aimer un travail. Aimer aller au cinéma, aimer se promener en forêt, aimer la tarte aux fraises, oui, mais un travail. Aussi, ai-je été surprise lorsque M. Colbert, l'ébéniste, à qui j'avais donné un coup de main 3 ou 4 fois, m'a proposé de rejoindre son équipe. J'ai d'abord cru qu'il parlait de faire le ménage dans son atelier, ce qui ne m'enchantait guère. Je préférais les chambres du Negrescu plutôt qu'un nid à sueur et poussière. Mais il ne s'agissait pas de ça. Il me proposait de venir travailler en tant qu'ébéniste. Je lui ai répondu que je ne savais pas faire, que je ne saurais pas faire. Il promettait de m'apprendre le métier. L'aide que je lui avais apportée l'avait agréablement surpris. Il me pensait doué. Ce jour-là, je suis tombée des nues. En 1960, les femmes n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, ni même d'ouvrir un compte en banque. Une tolérance était accordée aux femmes seules comme moi qui n'avaient d'autre choix. Mais la plupart du temps, nous autres individus, de sexe féminin, restions cantonnés à certains emplois. Je suis récemment tombée sur un reportage rediffusé par TF1 dans lequel un homme, représentatif de la pensée de l'époque, affirmait sans sourciller « Les femmes ont des qualités très particulières. Elles sont capables de réaliser des travaux extrêmement répétitifs qui lassent les hommes, comme de mettre des enveloppes sous bande. » De nos jours, une telle pensée archaïque susciterait des vagues d'indignation. En 1960, ce genre de commentaire était la norme. Ce que M. Colbert a vu en moi, je ne l'avais pas remarqué. M. Colbert m'a forcé à réfléchir, et je me suis rendu compte qu'il avait raison. J'ai travaillé plus de 2 ans dans son atelier. À ses côtés, j'ai appris le métier qui est resté le mien jusqu'à l'âge de la retraite. M. Colbert aimait transmettre. Aussi, n'ai-je pas été étonnée de découvrir qu'après sa mort, l'entreprise était restée familiale. C'est sa petite-fille, Camille, qui en a repris les rênes. Camille a les yeux de son grand-père. La même douceur, le même enthousiasme chevillé au corps. Je passe 2 heures absolument délicieuses à ses côtés. En ce jour férié, elle a accepté de me recevoir dans son atelier, situé à quelques centaines de mètres de l'original, qu'il lui a fallu abandonner la mort dans l'âme en 1992, lorsque l'immeuble a été vendu à des promoteurs. Je me reconnais dans cette jeune femme, d'une certaine façon. Elle aussi parle du bois avec ce mélange de flammes extatiques et de joie enfantine que seuls partagent les vrais passionnés. Camille m'explique s'être spécialisée dans les objets d'art de la table, plateaux décoratifs et planches à découper, entre autres. Elle aime travailler le bois brut, déclassé. Ce bois dont les gros fabricants ne veulent pas parce qu'il est trop sinueux. Ce bois qui partirait en fumée dans les cheminées si elle ne le récupérait pas. Les gros fabricants ne savent pas ce qu'ils perdent de beauté. Les tronçons de chêne, de noyer, de merisier, d'acacia ou de bouleau qu'elles travaillent sont magnifiques. Camille choisit justement de conserver et mettre en valeur les aspérités, les marques du temps. La grâce naturelle des pièces qu'elle propose me fascine. Camille est une magicienne, sublimant ce qui aurait dû être jeté, réinventant le métier, signant de son empreinte sensible une gamme d'objets fabuleux. Qu'est-ce que j'aime le bois, moi aussi, dans ses veines. J'ai toujours l'impression de sentir des pulsations. Le contact charnel avec sa matière, c'est quelque chose d'irremplaçable. Il faut de la patience et de la dévotion pour passer des dizaines d'heures sur un même objet dans le bruit des machines. De la minutie et de la précision pour utiliser sans se blesser varlope, scie, dégauchisseuse raboteuse et autres ciseaux à bois. Mais quel plaisir de baigner dans ce mélange d'odeurs indéfinissables, de choisir les matières et techniques qui se marieront aux essences choisies. Ici, une coulisse à billes, là, une autre à galets. Ici, une poignée en fer, là, en étain. Pour moi, l'ébénisterie est à mi-chemin entre l'art et l'artisanat, une haute couture du meuble qu'il faut à tout prix préserver. Monsieur Colbert était en avance sur son temps. Il m'a donné ma chance dans un métier d'homme, assumant la perte de certains clients quand ceux-ci refusaient de confier le destin de leur meuble à une femme. Voilà pourquoi je suis si heureuse lorsque je parle à Camille de ces 100 000 euros que je vais lui donner. Au début, elle refuse. J'ai bien compris que ce serait le cas de chaque personne à qui j'offrirais une telle somme. Alors, je n'en suis nullement blessée. J'explique ma démarche avec ma patience d'ébéniste. Elle m'écoute, les yeux brillants. Puis elle me remercie. Mais refuse de nouveau, en me rappelant qu'elle n'est pas son grand-père et qu'elle-même n'a rien fait pour moi. Je m'y attendais. Je commence à être rodée. Je contourne le problème d'illégitimité qu'elle m'oppose en lui proposant d'investir dans son entreprise, donc celle de son grand-père, afin que le nom de Colbert rayonne toujours plus loin. Je l'assure que je serai une actionnaire des plus discrètes, d'autant que je vais bientôt mourir. Elle me pose quelques questions sur mon état de santé, puis, comprenant l'absence de fondement de cette affirmation, elle rit. Mais ça, c'est parce qu'elle ne connaît pas la prédiction de Madame Salomé. Puis elle finit par accepter mon offre du bout des lèvres. Elle me remercie une bonne dizaine de fois, me serre dans ses bras, et je repars de l'atelier le cœur rempli de lumière, et avec la promesse de recevoir un colis d'objets de sa confection à mon retour à Paris. Si je suis morte entre-temps, eh bien, ce sera pour Chloé et Olga. Je savais que ces quelques jours ici seraient riches d'émotions diverses. J'ai tout connu dans cette ville, les plus grandes joies, les plus grandes peines, les plus grandes terreurs. Lorsque j'ai organisé mon voyage avec l'aide d'Adrien, je n'avais pas pris conscience que je serais à Nice pour le 14 juillet, en mémoire des 86 personnes décédées sur la promenade des Anglais dans ce terrible attentat il y a 2 ans. Je passe allumer un cierge à l'église Sainte Rita, et je reste un moment à prier dans la fraîcheur de ces murs qui en ont vu passer des drames, mais qui sont toujours debout. Puis, en bonne sudiste, j'achète une petite chaise de plage toute légère, de l'eau bien fraîche et un pambagna, ce sandwich typique qui renferme dans un petit pain rond baigné dans l'huile d'olive la plupart des ingrédients de la salade niçoise. Muni de tout cet attirail, je m'installe sur la plage des Ponchettes. Tandis que le ciel se pare lentement d'étoiles, des familles pique-niquent sur la plage, des enfants rient, se baignent, se lancent des ballons. La vie est là, et il me semble que c'est très bien comme ça. Alors, confortablement installée sur ma chaise, dans le brouhaha entrecoupé du clapotis des vagues, je ferme les yeux et je replonge dans les souvenirs de mes dernières années à Nice. Je n'ai pas fait exprès d'être ici aujourd'hui. C'est pourtant à Nice, le 14 juillet 1962, que Nino et moi avons décidé de nous marier.